Passeuse d'infos.
Quand on a demandé l'asile,
sans papier,
on m'a dit c'est pas facile,
sans papier,
tu vas attendre 2 ans,
sans papier,
et tu reçois refusé.
Passeuse d'infos est une émission consacrée à la question migratoire. Au gré de l'actualité, des rencontres, des événements, elle tente de reconstruire le paysage politique, économique et social d'un des enjeux les plus complexes et les plus graves de notre époque. De tous les horizons, des intervenants et des intervenantes du monde entier nous informent de leur action et de leur actualité. Passeuse d'infos, une nouvelle émission, aujourd'hui spéciale, de retour de Belgique. Je vous ramène des témoignages, des enregistrements de personnes que j'ai rencontrées et qui sont passionnantes. Entre autres, aujourd'hui, on vous parle de Exil et Création, qui est une plateforme d'association bruxelloise qui s'est créée et organisée autour de l'exploitation des personnes sans papier dans les milieux de la culture, mais pas que. On y aborde les problèmes autour de la formation, de la rémunération, certes, mais aussi et surtout la question des projets, de l'homogénéité des récits, de la représentation des personnes sans papier dans les milieux artistiques et de leur propre créativité. Quand les associations et institutions s'engagent à former des personnes exilées et sans papier, elles ne prennent pas plus de risques que ces personnes concernées. Il leur faut juste un petit peu de courage et beaucoup d'engagement pour donner la chance à quelques-uns ou quelques-unes de développer une ou des passions et de s'épanouir comme tout un chacun ou chacune sur cette planète, papier ou non, souhaite le faire. Dans cette émission, vous allez entendre Laetitia, créatrice de vêtements poétiquement engagée, et Ali Diou qui a réalisé une BD intitulée « Idées noires » aux éditions Frémok, dessinée à 16 mains. 8 jeunes exilés sans papier y racontent leur parcours. Ali Diou nous raconte cet incroyable processus de création, sachant que les droits d'auteur leur seront reversés. Je vous mettrai les détails dans le descriptif de l'émission, parce que là, vous pouvez la commander et proposer à vos librairies préférées de la diffuser. C'est un petit acte, ou grand même militant, qui est un véritable soutien pour celles et ceux qui n'en ont jamais assez. Les illustrations musicales ont été enregistrées par moi-même à la fin de la journée. Une superbe jam s'est mise en place, c'était extrêmement chaleureux, je dois le dire. Les enregistrements ne sont pas géniaux, je vous prie de m'en excuser, mais fermez les yeux et imaginez des personnes qui s'accordent une parenthèse de création collective, colorée et joyeuse, et je vous promets que vous aussi, vous serez enchantés. Tout d'abord, on va écouter Milady Renoir, qui est engagée auprès des sans-papiers depuis bon nombre d'années et qui est l'une des animatrices de la plateforme Exil et Création. Elle nous en donne le contenu. Milady, tu es militante active au sein de la Voix des sans-papiers.
Au sein de la plateforme qui s'appelle Exil et Création, dont font partie plusieurs collectifs, dont la Voix des sans-papiers, qui est un collectif autogéré de sans-papiers uniquement.
Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me parles de ce projet Exil et Création.
Exil et Création, c'est vraiment un espace de réflexion à partir de la question initiale qui était comment on arrête de faire de la merde dans les projets socioculturels et artistiques quand il y a la question de la migration qui est au centre, par exemple, et qu'on sollicite des personnes dites sans papier, donc sans séjour régulier, qui est une sorte de panaché entre le meilleur et le pire, c'est-à-dire on a des bonnes intentions, on aimerait bien faire du participatif, on aimerait bien que les personnes dites concernées soient justement à l'endroit de la parole, de la création, etc. Et en même temps, avec, comme toute bonne intention, pavé exactement de bonnes intentions, c'est l'enfer. Et donc plein d'endroits, d'écueils, dans des transactions, de qui fait quoi, à quel moment la création commence, comment on sollicite des personnes, comment on les rémunère. Alors on a beaucoup parlé de la question de la rémunération, mais pour nous c'était une espèce de paroxysme de la mauvaise transaction, si tu veux. C'est-à-dire que même l'argent n'est pas pensé, alors que moi, si on me sollicite moi comme artiste, a priori on va me demander combien je veux. tu vois. Mais bon, l'argent n'est absolument pas au centre, mais il est devenu un peu le prétexte de la conversation avec les organisations et les institutions.
Il reste le nerf de la guerre quand même, hein.
De la guerre, sachant que si une institution ou un collectif ou une boîte de prod ou une compagnie de théâtre fait appel à des personnes sans papier, ça veut dire que pendant ce temps-là, elles ne travaillent pas au noir, elles ne sont pas exploitées. Alors si c'est pour dire qu'elles ne sont pas exploitées et qu'on souhaite l'arrêt de l'exploitation des personnes sans papier, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Si la contrepartie, c'est un sandwich et un ticket de transport, c'est un peu léger comme contrepartie, ça ne nourrit pas le village à la maison, quoi. Donc la question centrale, c'est le temps que vous prenez aux personnes sans papier, comment ça se traduit dans leur vie, quelles sont les retombées, si on devait parler en termes un peu logiques, mais aussi qu'est-ce que ça construit comme narratif, qu'est-ce que ça construit comme rapport social aux personnes sans papier. Est-ce que, on l'a mentionné tout à l'heure, est-ce que la question de la migration est le seul endroit de conversation avec les personnes sans papier? Est-ce qu'on peut un peu changer ça? Donc il y avait la question des représentations dans les projets, la question de sortir de l'homogénéité des récits, puisqu'en fait, toutes les personnes qui sont soit sans papier, soit demandeuses d'asile sont bien sûr dans des individualités, mais aussi on en a peut-être marre de parler d'elles-mêmes de la même manière dont on attend d'elles qu'elles parlent, quoi. Donc ça fait partie des revendications d'Exil et Création. Ouais.
On demande pas toujours et pas très souvent à des personnes qui sont dans cette situation-là de quoi ils et elles rêvent et de quoi ils et elles sont capables.
Tout à fait. Alors la question du capable, pour nous, c'est très important. Et donc, dans Exil et Création, on est en lien avec des institutions de type école d'art. Donc, on est en lien avec deux hautes écoles d'art, mais aussi avec des institutions qui ont un moment... comme des éducations, on dit plutôt éducation permanente en Belgique, mais on dirait éduc-pop si on voulait dire un petit peu, mais c'est pas exactement les mêmes choses. C'est que comment on accompagne les personnes qui ont des compétences préalables, peut-être que au pays il y avait déjà des compétences artistiques ou pas, par exemple, et comment on fait pour accompagner ces personnes vers, non pas des formations, parce qu'il y a des personnes sans papier qui font des formations, mais elles sont pas qualifiantes ou certificatives. Donc finalement, alors c'est de l'occupation, c'est un rapport social, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi apprendre la langue française, enfin, des trucs avec lesquels nous on a aussi des problèmes de la manière dont c'est fait, mais c'est pas la question d'Exil et Création. Mais donc voilà, comment on fait pour accompagner ce mouvement-là? Donc par exemple Laetitia, que j'espère tu vas interviewer tout à l'heure, qui est notre créatrice styliste, elle faisait des croquis au pays, mais vraiment dans un rapport, elle est journaliste au départ, etc. Puis voilà, au bout d'un moment, elle a dit « Mais moi, j'ai envie de fabriquer quelque chose qui ait du sens avec ce que je suis en train de vivre en tant que femme sans papier. » Et donc, bah voilà, tu as vu le défilé, qui est un défilé poético-politique. Et donc, la base, c'est bien évidemment le textile, la manière dont les corps peuvent porter certains tissus, etc. Elle en parlera mieux que moi. Mais aussi, Laetitia, du coup, elle a commencé à rentrer dans une école. Et on discute avec l'école, ça veut dire quoi accompagner une personne sans papier, comment elle paye son matériel, comment elle est cotée à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a un certificat à la fin du cursus? Parce qu'en fait, sinon, alors, c'est super pour elle, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, que ça serve la personne sans papier, c'est la base, mais qui est aussi une sorte de jurisprudence dans les institutions, que la prochaine personne qui voudra rentrer dans cette école ne devra pas subir, entre guillemets, tous les empêchements, les écueils de toutes les conversations qu'on a eues, les négociations, voilà. Donc, c'est aussi de la formation vers les institutions, si tu veux.
Donc vous êtes à la recherche d'écoles, vous allez solliciter les écoles, les théâtres, les associations, etc. pour trouver des alliés qui vous ouvrent des portes et qui prennent des personnes sans papier. Alors est-ce que ces institutions, ces écoles, etc. prennent des risques quand elles prennent des sans-papiers?
La question du risque, elle est curieuse parce que qui est en danger? Pas vraiment les institutions. Alors on est ici en Belgique dans un contexte socio-économique compliqué. On nous sort à tout bout de champ que c'est la crise. Alors il y a des contingents politiques qui font qu'en effet Bruxelles est très malmenée par les instances nationalistes flamandes. Je ne vais pas faire le cours d'histoire de la Belgique, mais c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc oui, il y a des lieux qui ferment, oui, il y a des emplois menacés, etc. Les personnes sans papier sont menacées 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Donc la question du risque, ben nous on essaye non pas d'évaluer le risque, mais d'essayer de réfléchir à quelle marge de manœuvre on met en place. Dans les associations avec lesquelles on travaille, il y a toujours de la bidouille. C'est-à-dire, il y a une personne avec papier qui doit travailler. Ah oui, alors toi, on va te payer en frais. Toi, on va te payer comme ça. Attends, on va te faire un contrat comme ça. Comment ça se fait que la bidouille applicable à des personnes avec papier ne serait pas applicable aux personnes sans papier? Donc, nous, on réfléchit à cette notion de la bidouille, je ne peux pas te le dire autrement, ou de la marge de manœuvre, en fait. Donc, les risques, en fait, réellement, si l'institution prend une décision, elle n'a pas grand risque. à part un contrôle judiciaire à un moment parce qu'ils ont fait, je sais pas moi, 50 000 euros de faux frais, bon, bah alors là, oui, on n'en est pas exactement à cet endroit-là. Par contre, le positionnement collectif dans les secteurs associatifs, est-ce que l'éducation permanente défend vraiment quelque chose? Est-ce que le culturel défend vraiment quelque chose? Est-ce que les collectifs artistes défendent vraiment quelque chose? C'est ça qu'on essaye de mettre en lumière. Si vous voulez faire une fresque avec des sans-papiers, c'est pas, ça suffit pas, en fait. La fresque donne pas les papiers, quoi. Tu vois? Donc merci. Voilà.
Mélodie, pour terminer, parce qu'il y a la jam, on aimerait bien y aller l'écouter. Mais juste pour terminer, on sait qu'on perd du terrain. Nous, les militants activistes autour de cette question-là, on perd beaucoup de terrain les derniers temps quant aux législations qui se mettent en place au niveau européen et dans chaque pays. Mais est-ce que toi, qui es activiste depuis longtemps aux côtés des sans-papiers, tu as l'impression qu'au sein même des collectifs et des personnes, il y a des avancées, il y a des choses qui se passent, qui renforcent ces mouvements-là?
A priori, quand tout le monde goûte la merde, on essaie tous de s'en sortir. Voilà. Alors, c'est difficile à répondre parce que je ne suis pas dans les collectifs complètement, même si ça fait longtemps que je suis impliquée avec elle et eux. On va attendre que les pompiers passent. Voilà, en même temps, c'est un bel effet spécial pour parler de l'hécatombe. Mais ouais, la question, elle est vaste. Je ne sais pas, ici, au sein des collectifs qui durent depuis 10 ans, c'est à la fois une bonne nouvelle qu'un collectif puisse continuer à être autonome et autogéré avec une longévité. Quel collectif tienne 10 ans? Pas grand monde, en l'occurrence. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire des collectifs qui deviennent de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus remplis de personnes qui sont en plus dans des situations complètement incroyables? Donc tu vois... Ici, moi, j'ai un regard plutôt de l'intérieur, entre guillemets, pas du collectif, mais de Exil et Création, par exemple, où nous, on a des avancées, si on devait parler en termes d'avancées. Parce que c'est plus le même langage porté par les personnes sans papier, c'est plus le même lexique utilisé par les institutions et les associations. Si on doit se baser sur ces petites victoires-là, ça s'en est. Mais si on regarde un petit peu à l'extérieur, entre guillemets, là, on est dans autre chose, on est dans autre chose. Donc, on va se radicaliser, en fait. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est que nos propos soient de plus en plus... Ouais, radicaux au sens de revenir à la base, ça veut dire quoi solidarité, ça veut dire quoi faire avec, ça veut dire quoi co-construire, tous ces termes qui ont été à un moment utilisés dans tous les endroits, l'horizontalité, tu vois, tous ces termes, la co-construction, bah, faisons-le concrètement, donc on essaye de faire ça, quoi, ouais.
J'ai bien aimé aussi tout à l'heure, je le relève tout de suite et après on va écouter la musique parce qu'en plus on a une belle illustration là. J'ai bien aimé, il faut qu'on passe du plaidoyer au réquisitoire.
Oui, bah, je pense que ça peut être exactement cette phrase-là qui ponctue ce que tu dis, à mon avis, nos velléités, quoi, clairement.
Merci Mélodie. Laetitia se présente et nous explique sa démarche créative et les luttes qu'elle mène au quotidien pour la reconnaissance des personnes sans papier. Visibiliser ce que l'on invisibilise en permanence, c'est son credo. C'est ardu et le parcours est semé de défaites quotidiennes, mais la détermination est au rendez-vous. Pas de droit, pas le choix. Derrière, vous entendrez les femmes de la chorale, Exil et Création, chanter l'hymne des femmes. C'est un joli hasard. Laetitia, j'ai assisté cet après-midi à un défilé donc dans le cadre de cette journée d'Exil et Création. Vous êtes styliste apparemment. Est-ce que c'est votre formation de base ou alors est-ce que vous avez eu envie là dans votre parcours de faire ça, de créer des vêtements? Et après on parlera du défilé en lui-même après vous.
Ben moi, je suis Laetitia Assémian et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en Belgique depuis 7 ans bientôt. J'ai pour formation de base la linguistique, donc j'ai un bachelor en sciences du langage, communément appelé linguistique. J'ai un peu aussi de compétences en journalisme et tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis venue en Belgique. Je suis venue pour les études en journalisme. Et la mode a toujours été une passion pour moi depuis petite. Et donc là, je suis étudiante. Je fais des cours en soirée. Je suis étudiante en stylisme. Je suis en deuxième année. étant aussi une militante très engagée pour la régularisation des personnes sans papier, car ayant moi-même connu cette situation, là maintenant je suis en procédure d'asile, donc j'utilise, si je veux dire, mon talent pour raconter l'histoire, pour visibiliser ce que les gens veulent invisibiliser. Et je me sers des matières, du textile, pour raconter des parcours migratoires, parce que je sais ce que c'est qu'être sans papier. Et je me dis que la mode ne peut pas s'arrêter qu'au volet esthétique pour moi. Ça doit être au-delà de l'esthétique, ça doit être un langage, un moyen pour rendre visible ce que les gens refusent de voir et aussi pour faire entendre les voix des personnes qu'on refuse d'entendre. Donc, c'est un peu en gros mon parcours.
Est-ce que vous arriveriez à me décrire les pièces que j'ai vues défiler sur la scène tout à l'heure, en tout cas quelques-unes? Moi, il y en a qui m'ont marqué, bien sûr, mais on va voir si c'est les mêmes.
Ouais, j'ai eu des pièces, j'ai confectionné les tenues à partir des objets existants, avec d'autres choses comme les poubelles, les sacs poubelles et d'autres qui étaient des tissus que j'ai ramenés d'Afrique, que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui, qui étaient très importants pour moi de les faire valoir aujourd'hui. Et les pièces qui m'ont particulièrement marquée, peut-être que je ne sais pas si vous parlez des mêmes pièces, mais il y a cette pièce qui a été faite avec la maille de couleur verte et qui a été décorée avec des verres cassés. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser cette pièce-là. Et je me suis même blessée, comme je disais dans la présentation, parce que j'ai dû casser des verres que j'ai dû laver, nettoyer et puis les utiliser pour confectionner la tenue. Et il y a eu aussi ce vêtement en sac poubelle qui représente aussi beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on est traité quand on arrive en Europe, en Occident, en tant que personne exilée. On n'est pas considéré, on est traité comme des déchets, que ce soit au niveau de l'accueil et au niveau administratif et même dans la société. C'est pourquoi des projets comme Yanamar, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça aujourd'hui, des projets d'accompagnement comme Yanamar existent, parce qu'on ne nous considère pas. Une fois que vous êtes déjà personne noire, vous êtes déjà racisé. Quand vous êtes personne noire sans papier, vous êtes doublement discriminé. Et donc, ce sont des tenues qui ont beaucoup de sens pour moi. Et franchement, j'ai aimé toutes mes créations, parce que toutes, elles avaient toutes une histoire. Toutes les silhouettes avaient une histoire un peu différente les unes des autres, mais qui raconte quand même le parcours migratoire.
Juste pour décrire aux auditeurs, c'est aussi un exercice que de décrire quelques-unes de ces tenues, même si toutes comptent à vos yeux, ce que je comprends très bien. Et je pense qu'elles ont toutes une valeur vraiment très, comment on va dire, intense. Oui. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y a eu, par exemple, cette chemise avec des papiers dessus.
Oui, cette chemise avec des papiers dessus, cette inspiration est venue du fait qu'on dit régulièrement que les personnes ont ces jours irréguliers sont des personnes sans papier. C'est vrai que le mot sans papier, c'est collectivement un mot de lutte, mais individuellement, c'est vraiment un mot de, je sais pas comment le dire,
c'est pas vrai en fait.
Non, parce que tout le monde a des papiers quelque part. Tout le monde a un papier. Voilà, on n'a pas juste le bon papier du pays d'accueil, mais on a un papier. Et j'ai voulu créer un peu d'ironie avec ces papiers-là que j'ai mis sur la chemise. Et j'ai fait exprès de choisir le tissu tartan pour son histoire, qui est un peu une histoire qui a été mise en valeur par Vivienne Westwood en ce qui concerne le tartan, le motif tartan, qui parle un peu de la rébellion, le fait de ne pas se soumettre à certaines choses. Et donc, le fait de représenter ces papiers sur la chemise, c'était pour dire aux gens, en fait, que les personnes sans papier sont les personnes qui ont plus de papier dans le monde, en fait. Parce que quand vous êtes sans papier, tout a un sens.
Chaque papier compte.
Chaque papier compte, chaque papier est important. Du coup, on collectionne tous les tickets de caisse, qui pour n'importe qui n'a pas de sens. Pour nous, ça a un sens, parce que tu dois prouver que tu existes, que tu es en Belgique depuis tel nombre d'années, que tu fais telle chose. Les petits rendez-vous, n'importe qui, on doit les garder. En fait, tous les papiers ont de l'importance en tant que personne sans papier. Donc, on est des collectionneurs de papiers. Finalement, je dis, on est sans papier avec sans papier. Donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer un peu à travers.
Et sans, c'est peu. en plus.
Et 100, c'est peu, hein. 100, c'est peu.
Et il y a ce vêtement qui est composé de sous-vêtements.
Exactement. Ça fait marrer beaucoup de personnes. Et j'ai fait exprès de n'avoir pas présenté ce vêtement avant que la silhouette ne soit sur le podium parce que je voulais laisser l'imagination de chacun, enfin du public, interpréter le vêtement. Et quand on est sorti, il y a des personnes qui m'ont dit bah moi je voyais comme ça, en fait je pensais que c'était peut-être de cette façon-là, mais déjà c'est quoi l'idée qu'on renvoie quand on porte des sous-vêtements en tant que femme. Il faut dire que à la base, ce qui m'a vraiment poussée à faire ce vêtement, c'est ce que nous avons vécu en 2023 lors de l'expulsion violente que nous avons subie parce que le comité des femmes avait une occupation pour 30 femmes et 6 enfants qui étaient à Woloué Saint-Lambert. On a été expulsés à 5h du matin avec 200 policiers et il y avait des femmes qui étaient à moitié nues. Il y a d'autres qui étaient qu'en sous-vêtements. Il y a une qui était carrément nue parce que voilà, elle dormait. Elle s'est levée, elle a voulu aller aux toilettes, se débarbouiller parce qu'elle avait rendez-vous. Et les policiers ont débarqué à 5h du matin, vers 6h, pour nous expulser. Il y avait des femmes qui étaient vraiment nues. Il y a d'autres qui étaient qu'en sous-vêtements. Et ils ne se gênaient même pas de les regarder, de leur dire « Madame, on n'a pas le temps, sortez. » Et il y a d'autres qui sont sortis juste avec un tricot pour cacher le haut, mais qui avait encore les fesses dehors, si je voulais dire ainsi. On a dû négocier pour les faire entrer dans le bâtiment pour se couvrir. Donc cette lutte, elle nous poursuit jusqu'à même dans notre intimité. Et c'est ce que j'ai voulu représenter à travers ça. Je me suis dit, est-ce que ça allait choquer les gens de voir un vêtement en un vêtement confectionné avec des sous-vêtements. Est-ce que ça allait choquer des gens? Eh bien, si ça vous choque, imaginez le choc que nous, on a eu ce jour-là. Et j'ai aussi demandé à des personnes soutien. Donc, on appelle généralement ces personnes soutien nos blanches. Donc, j'ai demandé à nos blanches de nous donner aussi leurs sous-vêtements parce qu'on a beaucoup de soutien de ces femmes-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas vraiment, il faut vraiment pouvoir le dire aussi. Il faut le dire, on a vraiment des personnes qui nous soutiennent dans cette lutte-là. Et nos blanches, comme j'aime l'appeler, et on aime le dire comme il est dit, Aliette, Romane, Asma, toutes ces femmes que vous avez vues là, chacune a donné un peu de ses sous-vêtements. Et on a voulu aussi montrer la solidarité qu'il y a malgré les tensions que nous subissons. Donc c'est vraiment, si je dois classer toutes mes créations, c'est vraiment la pièce préférée, c'est ma pièce de cœur. C'est vraiment ma pièce de cœur, cette création-là.
Une pièce de peau.
Ouais.
Il y a une autre chemise avec des lanières. Alors là, tu as parlé des frontières.
Oui, j'ai parlé des frontières, de comment est-ce qu'on se blesse quand on traverse les frontières. Comment est-ce que la blessure, elle est extérieure et elle est aussi intérieure. Et une fois arrivé sur le pays d'accueil, il y a encore des frontières qui sont invisibles, comme l'accès au droit au titre de séjour, l'accès au travail, l'accès aux formations. On arrive ici avec des backgrounds. On a tous un bagage quelque part, mais on ne sait pas le faire valoir parce qu'on est bloqué à cause d'un petit bout de papier à 11 bêtes chiffres. Donc ce sont ces violences externes et internes que j'ai voulu représenter. J'ai vraiment déchiré, ça m'a fait mal parce que j'ai toujours du mal à vraiment déchirer, mais je pense que ça arrive à tout styliste ou à tout couturier ou à tout couturier. C'est un peu douloureux de déchirer comme ça le vêtement, mais je l'ai fait avec toute ma rage, quoi. De déchirer en petits morceaux ces deux morceaux de pagne wax qui ont fait une chemise. Et pour montrer à quel point on souffre, toutes ces barrières, toutes ces frontières qu'on n'arrive pas à traverser, tout ce que ça nous empêche de montrer. Voilà.
On va finir avec le t-shirt aussi qui est un peu ouvert parce que là vous parliez de souffrance, je passe du vous au tu, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu parlais de souffrance et ce t-shirt-là, il a cette expression-là, c'est vrai.
Exactement, le t-shirt fluo. Fluo, oui. Bah, c'est un peu dans le même style que l'autre pagne wax que j'ai déchiré. C'était un peu c'était un peu la même idée aussi, de montrer notre parcours. Comment est-ce que notre parcours est érigé de souffrance, un nid de souffrance qu'on ne peut pas décrire. De comment est-ce qu'on a vraiment envie de s'étirer, de sortir de tout ça. Et finalement, on finit par se faire nous-mêmes du mal. À force de forcer, à vouloir passer, à vouloir qu'on nous accepte, à vouloir qu'on nous accepte tel qu'on est, qu'on nous laisse en fait cette chance de montrer qu'on n'est pas ce que les gens disent que nous sommes. C'est vrai, je ne peux pas dire, on dit il y a des brebis égarées partout. On ne peut pas prendre un cas pour généraliser tout le groupe. C'est pareil, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. Il ne faut pas dire que tout est noir alors qu'il y a au moins un blanc. Il ne faut pas dire que tout est blanc alors qu'il y a au moins un noir. Donc nous autres qui portons le poids des autres qui commettent peut-être des crimes ou d'autres choses, on s'étire, on a tout envie de sortir, de dire ne nous mettez pas en fait dans le même panier, nous on n'est pas là pour ça. On a des objectifs en venant ici, on veut sortir. Donc c'est, et la couleur, parce que c'est une couleur qui frappe beaucoup à l'œil nu. C'est une couleur qui donne, même dans l'obscurité, elle apparaît. Donc c'est pour montrer aussi qu'on ne veut plus cacher nos douleurs. On ne veut plus cacher ce qu'on vit. Et donc, donc chaque choix, que ce soit de la couleur, les matières, tout avait un sens pour moi.
Il y avait aussi la femme africaine qui est très belle.
Ah oui, elle est très belle, cette femme africaine, qui malgré tout n'abandonne pas, continue de lutter. Comme tout à l'heure, lors du jam, j'interprétais... un chant de Zahra, la sud-africaine. Et c'est un chant que j'ai dit, j'ai voulu chanter pour rendre hommage à toutes ces femmes africaines qui ont laissé derrière elles des familles, qui sont venues ici dans l'intention de réussir et subvenir aux besoins de leurs familles. Il y a plusieurs femmes dans le comité des femmes sans papier qui ont enterré leurs enfants derrière elles. Et tout récemment, on a une qui a enterré son fils de 22 ans. Et ça fait 15 ans qu'elle est ici sans papier, 15 ans qu'elle lutte, alors qu'elle a fui un foyer toxique à cause du mariage. Elle s'est retrouvée ici. Elle se disait que les choses allaient aller. Elle allait pouvoir avoir les papiers et faire venir son seul fils. Elle n'a qu'un seul enfant. Et aujourd'hui, elle ne peut plus faire d'enfant, cette femme-là. Elle a atteint l'âge de la ménopause. Ça fait, je crois, même 15 ans ou 17 ans qu'elle est là, cette dame. Et son seul fils pour qui elle est venue se battre est décédé derrière elle. Elle est dans des dépressions pas possibles. Et ce sont des choses que les gens ne voient pas. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. Et c'est une souffrance énorme. Mais malgré cela, elle tient quand même à garder la tête haute. Et c'est important de valoriser ces femmes-là qui, même ici, sont minimisées. On nous fait souvent croire qu'on n'a pas notre place ici. Et moi, dans mes différentes... En fait, partout où j'ai été, où j'ai eu à prendre la parole, je ne m'adressais pas qu'aux Belges. Je m'adressais aussi aux femmes africaines. Et je leur dis, vous êtes belles telles que vous êtes. Et je valorise beaucoup tout ce qui est naturellement africain, que ce soit la coiffure et n'importe quoi. Parce que jamais les femmes, en fait, assument leur beauté africaine, à se sentir élégantes, qu'elles soient en panne wax, en tenue traditionnelle ou quoi que ce soit. Qu'elles se sentent importantes. C'est pas parce qu'on parle pas la langue d'un pays qu'on n'est pas intelligent. On peut avoir des diplômes sans être intelligent. Être intellectuel et être intelligent, c'est deux choses différentes. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas appris à parler la langue des Blancs, à écrire la langue des Blancs, que vous n'êtes pas intelligente. Ils ne peuvent pas comprendre le Lingala, ils ne peuvent pas comprendre la Bouré. Ça ne fait pas d'eux des personnes inintelligentes non plus. Donc il faut refuser en fait d'accepter ce que les gens disent que vous êtes. C'était important pour moi de valoriser cette femme africaine-là.
Je crois qu'on va rester sur ces paroles-là. Et j'ai enregistré cette chanson que tu as chantée tout à l'heure, donc je la passerai derrière. Je te remercie beaucoup, Laetitia.
Merci à vous.
Moi, je vais interpréter la chanson « Le loué » de Zahra. C'est une artiste sud-africaine qui est décédée. Je crois que ça fait 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Et c'est juste pour rendre hommage à l'artiste, pardon. C'est juste pour rendre hommage à toutes ces femmes qui assistent à distance aux obsèques de leurs enfants. Et on sait que l'exil, c'est pas facile. On enterre tous nos parents derrière nous. Donc je vais juste interpréter ce chant de Zahra pour rendre hommage à toutes ces personnes. DJ.
Alors. Ouloli wawai doudoula. Ouloli wawai doudoula. Ouloli wawai doudoula. Namoziza. Zulu zanye pezi takwatu, zulu zanye pezi takwatu, zulu zanye pezi takwatu, nangeziza, zulu.
Ali Diou nous emmène dans les méandres de la création collective avec quelle intelligence il et elle ont créé une bande dessinée que je vous recommande encore une fois. Idées noires aux éditions Frémog de Bruxelles, à acheter et à distribuer dans tous les lieux possibles. Ali Diou, avec la voix des Sans-Papiers Productions, vous avez édité une bande dessinée qui s'appelle Idées noires. Vous avez trouvé une maison d'édition aussi qui a été alliée avec vous, complice, pour éditer cette BD. Est-ce que tu peux me raconter l'origine, l'idée de produire un tel, objet ?
L'idée qui arrive parce que depuis 2014, VSP a été créée.
Alors VSP, c'est la Voix des Sans-Papiers.
VSP, c'est la Voix des Sans-Papiers, un collectif de la Voix des Sans-Papiers qui lutte pour la régularisation des personnes sans-papiers en Belgique. Donc depuis sa création, voilà, VSP essaie de manifester dans la rue pendant des années. Comme par exemple, y avait eu la régularisation massive qui était passée en 2009 en Belgique. Donc les personnes sans-papiers pensaient que voilà, chaque 10 ans, la Belgique va régulariser les personnes sans papier. Et on a attendu ça depuis 2019 et il n'y avait pas eu ces régularisations. Donc, le VSP s'est retiré un peu, a réfléchi comment amener la lutte d'une autre manière et politiser. Donc, ce qui nous a amené à créer plusieurs projets pour pouvoir toucher plusieurs personnes qui sont, voilà, des gens qui ne sont pas, par exemple, dans la manif, voilà, qu'on peut le toucher dans tous les domaines. C'est là l'idée arrivée de créer un BD bande dessinée qui s'appelle aujourd'hui Idées noires. Et ce projet, voilà, au début de ce projet, nous, on était un peu pas trop emballés là-dedans parce qu'on s'est dit, avec un dessin, comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire avec un simple dessin? Parce que s'il s'agit juste de venir s'asseoir et dessiner et après chacun se lève et part, ça n'a aucun sens, c'est juste une perte de temps. Mais voilà, on a commencé à dessiner, on se donne chaque vendredi, on se réunit, on dessine. On était quand même nombreux au début avec des anciens étudiants de Saint-Luc. Et nous, les personnes sans papier, à la maison de la voie des sans-papiers, on avait l'espace qu'on a nommé Baraka Sidio. Donc c'est là qu'on se réunit, on dessine. Et petit à petit, voilà, on s'est dit, ben, ça prend beaucoup de temps et ça n'a aucune utilité. On dit, ben, pourquoi ne pas penser à faire un BD qui rencontre l'histoire des personnes sans papier?
Parce que vous êtes au pays de la BD?
Ben oui, parce qu'on est le pays de la BD et on dit, voilà, franchement, la Belgique, voilà, c'est le centre des BD, donc ça pourrait toucher pas mal de personnes en Belgique. Et on dit, ok, mais quelle histoire raconte? Parce qu'il y a l'histoire, il y a plein d'histoires des personnes sans papier et laquelle vraiment qu'on peut choisir pour rencontrer. Ben, on s'est dit, ok, on peut penser, par exemple, pour venir en Europe déjà, on a des rentrées, soit par le bateau, soit par l'avion. Donc, si on a des histoires qui... Voilà, une personne qui est passée par les bateaux pour arriver ici et l'autre qui a pris l'avion pour arriver. Donc, si on réunit ces deux histoires, ça pourrait nous faire des belles histoires à rencontrer, à toucher le cœur des Belges. Donc, l'idée était venue comme ça. Mais maintenant, il reste à savoir qui va accepter de témoigner, de se laisser donner son histoire à tout le monde, que toute personne qui accepte les BD, puis comprend son histoire de début jusqu'à la fin. Donc il y avait ces questions-là, voilà, il y a d'autres qui hésitaient en disant non, voilà, ça ne m'intéresse pas, parce que le fait que je rencontre encore mon histoire, c'est comme si un autre trauma qui voilà, ça me touche beaucoup, je ne pourrais pas le faire. Moi j'ai dit, ben, écoute, moi j'aimerais bien le faire, je voudrais bien rencontrer mon histoire, mais à ma manière. Et quand j'ai dit à ma manière, il y a des morceaux que je ne veux pas que ça soit dans les BD parce que je trouve ça très personnel. Donc, il y a un ami de Taslim aussi qui a accepté aussi de témoigner. Donc, l'idée était venue, voilà, on commence par dessiner les pancartes. On rencontre déjà l'histoire tout complet. Et une fois rencontré l'histoire, voilà, on décide voilà, l'histoire-là en dessin, comment ça va se représenter. Comment ça va se représenter en dessin. Donc, on a fait des petits pancartes pour s'orienter petit à petit et ça commence à prendre des formes et tout le monde commence à s'impliquer là-dedans et ça, il y a des motivations et voilà. On ne peut pas dire, on peut pas parler de tout ça sans aussi dire que voilà, il y avait des soutiens quand même derrière Frémo qui était là, Thierry, Tizou, Emi qui étaient vraiment derrière nous pour la communication, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce que voilà, on peut accepter de travailler comme ça sans recevoir rien. Donc voilà, il y a eu l'idée de demander des subsides un peu à gauche, à droite pour ces BD-là et on a pu obtenir quelques subsides, voilà, qui nous permettent pour dessiner, parce qu'on a besoin de matériel pour dessiner, des feuilles, des crayons, tout ça, pouvoir acheter des matériels et aussi rémunérer les personnes qui dessinent aussi pour les motiver, même si voilà, ce n'est pas un grand salaire, mais voilà, ça a motivé toute l'équipe à se mettre au boulot et à la fin, tout le monde est heureux et content d'avoir Idée Noire.
Et vous avez eu donc la chance aussi de pouvoir négocier avec la maison d'édition que vous ayez des droits d'auteur.
Oui, on a eu la chance avec, parce que voilà, Thierry, vraiment, il est de notre côté, on peut le dire. Et voilà, comme il était le porteur des projets aussi, voilà, on a eu vraiment de négocier, avoir le droit d'auteur de tout ça qui va avec le BD. Donc aujourd'hui, voilà, le BD est vendu dans plusieurs pays d'Europe, en Suisse, Canada, en France, Belgique. Et donc, on est quand même très, très content. En tout cas, en tant que personne sans papier, on est très heureux de savoir qu'on a fait une bande dessinée qui est partie jusqu'au Canada et qui parle pas en Afrique. Il y en a déjà au Sénégal, d'autres pays d'Afrique. Donc, ce BD, quand même, il parle très, 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 très loin. Et nous, on est très heureux parce que notre message qu'on voulait amener a vraiment reçu, quoi. Voilà. Donc, toute personne qui prend le BD, qui lit et qui comprend bien le message qu'on lance là-dedans, nous, ça nous suffit largement d'être entendus un peu partout.
Vous avez beaucoup d'histoires qui sont totalement invisibilisées. C'est vrai que c'est des histoires difficiles à raconter parce que souvent elles ont des aspects traumatiques, elles ont aussi des aspects lumineux parce que vous êtes quand même des personnes chargées d'expériences qui sont aussi des expériences positives qu'on doit entendre parce que voilà, nous qui sommes très sédentaires, il y a des choses qu'on n'a jamais rencontrées, donc je pense que c'est hyper intéressant. Ce que je voulais savoir aussi, c'est en fait elle a été donc dessinée à plusieurs mains, ça veut dire que la qualité du dessin ou le graphisme je ne l'ai pas encore regardé, hein, je vais me faire surprendre, mais justement par curiosité pure, comment tu décrirais le dessin?
Le dessin, il est dessiné à 8 mains, 16 mains si vous voulez.
8 personnes et 16 mains.
Voilà, 8 personnes et 16 mains, dont l'idée est que voilà, on peut dessiner, on peut prendre comme on fait déjà des pancartes déjà. Chaque personne prend une planche et commence à dessiner. Par exemple, parmi nous, il y a des gens qui aiment dessiner des arbres comme moi. J'aime dessiner la nature, voilà, les animaux, tout ce qui va avec. Il y a d'autres qui aiment dessiner les maisons, des villes. Donc, on s'est dit, voilà, dans ce cas-là, si on a un dessin qui parle de la nature, on le donne à moi. Je vais dessiner mes arbres et tout ce qui va avec. Et s'il faut ajouter des maisons, on donne à quelqu'un d'autre, tu vois. Et dans les planches, ça tourne. Dans une seule planche, tu vas trouver que tous les 8 personnes-là, tout le monde a dessiné dans une même planche. Donc, on fait tourner les planches. L'autre, il prend ça, l'autre, il prend ça, l'autre, il prend ça. Donc, on a 8 planches déjà, qui est déjà faite. Donc, chacun prend une planche, il dessine étape par étape. Et quand j'ai fini de dessiner tout ce que je voulais mettre, je change, je donne à l'autre personne. Lui peut prendre, il me dit... Ah ben non, j'aime pas tes arbres là, ils sont pas trop jolis. Est-ce que je peux gommer? Là, il peut gommer et puis il rajoute ce qui lui semble juste. Non? Si je prends lui ses dessins aussi, je regarde. Ah ben non, je vois que les personnages sont pas bien dessinés. Est-ce que je peux changer leurs pantalons ou les habiller? Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on dessine. Et en fait, quand on finit de dessiner, quand on dit qu'on a dessiné à 8 personnes, les gens ont du mal à comprendre comment est-ce que c'est chaque personne qui a dessiné une planche qui rajoute ou c'est comment. Mais quand on dit non, dans chaque planche, il y a 8 personnes qui ont dessiné là-dessus Et quand tu regardes les dessins, tu te demandes, mais comment il y a...
T'es bluffé, quoi.
C'est bluffé, on voit même pas. Il n'y a pas de différence, et c'est comme ça. Et ça nous, on peut dire, ça nous a bien réussi, ces manières de dessiner. C'est très facile pour nous de se mettre à dessiner. Ou je dessine aujourd'hui, je laisse les pancartes. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui vient, et il prend ça, il l'amène chez lui parce qu'il n'a pas le temps, ou je le rapporte quelque part. Il va prendre, il va aller dessiner à la maison. Quand il revient, je regarde ce qu'il a dessiné hier chez lui. Non, ça ne me plaît pas celui-là, et je gomme. Tu vois, je refais ce que j'ai envie de le faire, je le montre, tu vois. Je vais faire ça, tu avais fait ça, j'ai effacé, j'ai fait ça. Comment tu en penses? Ah oui, ça, ouais, je vois, c'est bien, c'est bien.
C'est une belle collaboration, puis il faut beaucoup d'humilité, du coup, parce qu'il faut accepter que quelqu'un dise « Ah non, là, tes arbres, ils ne me plaisent pas », etc. C'est super. Par rapport à votre situation personnelle à vous, là, toujours dans une situation de sans-papier, sans perspective?
Moi, je peux dire, au début, quand on a commencé les barakas, bon, la situation est toujours la même. Et bien, en 2000...
Baraka, c'est quoi?
Baraka, c'est la bande dessinée. Le studio où on dessine, voilà, c'est le nom de notre collectif qui s'appelle Grafica. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, voilà. En 2021, on a commencé, la situation est toujours la même. Et en 2024, j'ai eu un titre de séjour de 1 an renouvelable. Et mon ami Taslim aussi, lui aussi en 2024 aussi, et il a eu aussi... un titre de séjour de 1 an renouvelable aussi. Voilà. Et pour les deux qui sont dans le groupe, voilà, c'est toujours le cas. Ils n'ont pas encore été régularisés.
Est-ce que justement Baraka et le travail que vous avez fait a été un tremplin pour vous aider à obtenir ce titre de séjour?
Ben, en tout cas, voilà, tout ce que nous on fait, on essaye de rajouter dans notre dossier. Voilà, parce que c'est les activités qu'on fait culturelles et qu'on essaye de dire tout le temps, voilà, qu'on est impliqué, on est actif dans ces pays tout le temps. Quand on fait quelque chose, voilà, on est obligé de le mettre dans notre dossier. C'est comme notre pièce maîtresse pour dire à les autorités qu'on est tellement impliqué ici, on aimerait vivre dans ce pays-là. Donc voilà ce qu'on fait quotidien en tant que personne sans papier, peu de moyens, pas de travail. Mais voilà, on n'est pas juste en train de dormir dans une maison en tant qu'un jour, les Belges nous donnent un papier, on va aller au chômage ou au CPS. Mais non, on est là parce qu'on a des savoirs à faire aussi. Donc si on est tout en train de montrer ce qu'on est en train de faire actuellement, qu'on n'a pas de titre de séjour, ce qui veut dire déjà qu'on a un titre de séjour, on sait de où on va s'orienter déjà.
Au moment où tu as eu ta carte de séjour, quel changement tu as ressenti?
Ben, je peux dire le seul changement que j'ai réussi, c'est juste que je peux sortir dehors, marcher tranquillement sans avoir peur, me promener un peu partout sans avoir peur de la police où on va m'arrêter, on va m'expliquer, on va m'amener au centre fermé. Donc voilà, c'est le seul soulagement que je peux dire que j'ai.
Il est énorme.
Voilà, et c'est ça qu'on demande tout le temps. C'est la seule chose qu'on demande parce qu'en tant que sans-papier, on est exposé à des risques tout le temps. Constant, tu sors pour prendre le transport, tu n'as pas de ticket, tu dois marcher, ou là où tu pars, c'est très loin, donc on est obligé parfois de prendre les transports en commun. Et là, on tombe sur le contrôle, et on est au centre fermé, on se demande, arrivé là-bas, maintenant qu'on se demande pourquoi j'ai pris le transport en commun, si je savais, j'allais marcher, mais c'est déjà trop tard. Donc, c'est ça le seul soulagement quand il y a un titre de séjour. Pour nous, les personnes sans papier, pendant des années, en train de faire la lutte, et le jour que tu as ce titre de séjour, on ne ressent pas la joie en disant « Ouais, maintenant j'ai eu les papiers. » Non, ce n'est pas ces ans de soulagement. Mais c'est juste, je peux juste me dire en disant « Ah, aujourd'hui, je peux marcher dans la rue, si la police m'arrête, le titre de séjour, je lui donne la carte, il me laisse partir. » C'est la seule chose que nous, on peut dire soulagement. Sinon, le reste, il faut encore se battre. Ah, il faut chercher travail, tu ne peux pas travailler sans une formation. Donc pour nous, encore déjà, c'est comme si on a le titre de séjour, mais on est encore revenu en arrière pour recommencer de tout bas pour remonter. Parce que ce que j'essaie de faire, ça n'a plus de sens. Parce que quand je dis j'essaie de dessiner, j'ai des histoires, on va me dire, mais vous avez un diplôme, vous avez étudié, vous avez, tu vois. Donc tout ça, non, je n'ai pas. Donc personne ne veut. Il faut recommencer à zéro. Donc c'est comme si, voilà, on a des titres de séjour, mais on recommence tout en bas. Donc c'est notre lutte encore. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui va te dire, ok, je peux t'aider. Non, bah, tu es assez grand, maintenant tu as des papiers, tu peux faire comme tu veux, tu as toutes les portes sont ouvertes, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas évident. Voilà.
Eh ben, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et puis beaucoup de courage pour la suite. On va colporter l'idée de cette BD, en tout cas pour que, lui faire de la publicité. Merci.
Ça nous fait plaisir aussi. Voilà, la publicité continue un peu partout. Et c'est notre but et notre souhait. Quoi.
Cette émission est terminée. Je remercie Milady, Laetitia et Ali Diou et tous ceux de cette plateforme Exil et Création pour leur accueil, pour leurs interventions et leurs actions, leur courage et leur détermination. J'espère que vous allez vite vous procurer cette bande dessinée dont vous pouvez retrouver les coordonnées dans le descriptif de cette émission qui est la 442e de la série de passeuses d'infos. Je vous souhaite le meilleur et c'est pas gagné. Force et courage.
Yeah.
Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le samedi à 18h et le mardi à 8h du matin. Passeuse d'infos.
Sans papier,
tu vas attendre 2 ans.
Sans papier,
et tu reçois refusé.
Passeuse d'infos est une émission consacrée à la question migratoire. Au gré de l'actualité, des rencontres, des événements, elle tente de reconstruire le paysage politique, économique et social d'un des enjeux les plus complexes et les plus graves de notre époque. De tous les horizons, des intervenants et des intervenantes du monde entier nous informent de leur action et de leur actualité.
Sinon les gaz lacrymogènes.
Sans papier.